France Inter. Jean Echenoz, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
Je prendrais le titre d'un roman de Roger Vaillant, c'est « Drôle de jeu ».
Une qualité indispensable pour écrire ?
La patience.
Un défaut indispensable pour écrire ?
L'impatience.
Romancier, auteur ou écrivain ?
Tout ce qu'on veut, plutôt, romancier.
Romancier.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassel.
Comment écrire un roman qui est en train de s'écrire ? C'est le défi qu'a tenté de relever notre invité, le romancier Jean Echenoz, lauréat du prix Goncourt en 1999. Cette année, il publie son 19e roman, Bristol, aux éditions de Minuit. Bristol du nom de Robert Bristol, cinéaste moyen, vivant seul, surveillant son hyperglycémie et mesurant 1m76, c'est précis. Robert Bristol doit adapter un roman, il va en faire un film d'aventure, tourné en Afrique, mais il n'a pas le budget. Bon, cette histoire, il faut dire qu'on s'en moque un peu. Avec Jean Echenoz, on suit une langue qui, de détours en dédales, est une aventure en soi. J'aurai le plaisir de recevoir également l'autrice suisse Sarah Jolien-Fardel. Son premier roman, Sa préférée, paru en 2022, a rencontré un joli succès et a obtenu le prix du roman FNAC, ainsi que le prix Goncourt des détenus. Elle y racontait l'histoire de Jeanne, élevée par un père tyrannique. Cette violence, elle infuse jusque dans son dernier livre, son deuxième roman, donc La Longe, paru ce mois-ci chez Sabine Vespizer. Sarah Jolien-Fardel nous narre l'histoire de Rose, une femme recluse dans une chambre, attachée à une longe après la mort de sa fille 3 ans auparavant. J'ai trouvé ce livre à la fois dur et plein d'espoir, puisqu'il s'appuie sur de nombreuses références littéraires, Marguerite Duras, Charlotte Delbault, mais aussi Fernando Pessoa et son célèbre livre de l'intranquillité, dont Sarah Jolien-Fardel nous lira un extrait. Enfin, comme chaque semaine, nous retrouverons nos libraires francophones pour leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Sarah Jolien-Fardel, bonjour.
Bonjour Lilia.
Et rebonjour Jean Echenoz. Alors Jean Echenoz, je suis ravie de vous recevoir. Je vous ai découvert personnellement avec Cherokee, votre deuxième roman, Prix Médicis en 1983. Dans Cherokee, il y a une description dont je me souviens encore par cœur, tant elle m'a fait rire. Vous parlez d'un homme qui, je cite, « arborait une large cravate crémeuse sur une chemise en tergale chocolat, ce qui lui donnait une allure confuse de souteneur et de petit déjeuner ». Et alors moi, j'ai vu tout de suite cet homme, mi-mafieux, mi-chocolat viennois. Et j'ai pensé en lisant cette phrase à l'époque qu'on avait le droit de tout écrire en littérature. On peut donc tout se permettre, Jean Echenoz.
J'espère qu'on peut tout se permettre, mais sans trahir quand même le projet d'un roman qui est comme une ligne, un fil conducteur. Mais à partir de là, il me semble que toutes les distances sont permises et qu'on peut varier des temps, qu'on peut introduire des digressions sans qu'elles prennent le pas sur l'histoire qu'on veut raconter. Mais c'est peut-être ce sentiment de liberté qui est important et qui fait que c'est une activité très prenante, quelquefois compliquée, mais pour moi essentielle. Quoi.
Vous ne vous fixez aucune limite ? Ou est-ce que vous faites un plan quand vous écrivez ?
Ça dépend des romans. Je sais que pour le roman précédent qui est
Vie de Gérard Fumard.
Ouais, qui était paru il y a 4-5 ans, là j'avais un plan assez strict, un double plan qui était à la fois l'axe, enfin le scénario de l'histoire et puis la façon de le raconter. Mais c'était des contraintes qui finalement étaient un petit peu des carcans aussi. Alors que pour ce livre-là, Bristol, je me suis senti vraiment plus libre en gardant une espèce de ligne, en sachant à peu près comment ça se terminerait.
Vous connaissez la fin au début ?
Là, je l'ai très vite, très rapidement, je savais quelle scène serait la scène finale. Ouais.
C'était quoi le point de départ de ce livre Bristol ? Pour Vie de Gérard Fumard, c'était plutôt un point de départ géographique. Ici,
oui.
C'était quoi ?
Là, c'était aussi deux points de départ géographiques, c'est-à-dire une rue du 16e arrondissement, qui n'est pas loin de la maison de la radio.
La rue des Eaux.
La rue des Eaux. Pour le précédent, c'était aussi une rue du 16e arrondissement, mais qui était assez banale, alors que la rue des Eaux est beaucoup plus attachante. Le point de départ géographique, c'était aussi l'envie de travailler de mettre en jeu une région d'Afrique australe que je connais absolument pas, mais sur laquelle je me suis pas mal documenté.
Sarah Jolien Fardel, La Longe est votre deuxième roman, et on sent aussi à la lecture de votre livre une grande liberté. J'ai envie de vous poser la même question que celle posée à Jean Echenoz en début d'émission. Pourquoi écrivez-vous ?
J'écris parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'écris depuis que je suis petite, là c'est vraiment très banal, mais j'étais seule avec mon premier texte que j'ai écrit en 2017. Et puis fin 2021, j'ai brûlé tout ce que j'avais écrit, parce que je n'avais pas écrit que sa préférée. Et puis quand même, en janvier 2022, je me suis dit, si tu devais mourir, qu'est-ce qui serait la pire chose qu'est-ce qui serait le pire, quoi, mourir et puis pour moi, c'était de ne pas continuer à écrire.
Donc, vous avez tout brûlé, sauf ce texte.
Alors, celui-là, je l'ai jeté, mais je l'avais dans l'ordinateur, parce que je l'avais envoyé, envoyé dans les mails. Voilà, j'écris pour vivre.
La longe est un texte très fort, l'idée de cette femme attachée comme une bête à une longe, métaphorique et physique. Cette idée, elle vous est venue comment ?
Cette idée, elle m'est venue parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai eu envie d'attacher quelqu'un.
C'est une bonne réponse, je ne m'y attendais pas du tout.
Oui, non, je le dis pas facilement, je me sentais à l'aise. Non, j'ai vraiment, par amour, j'ai voulu attacher quelqu'un, donc je vais pas en dire plus, mais un amour inconditionnel, donc on devinera plus ou moins voilà, que c'était pas un jeu sexuel. Et en fait, le personnage de Rose, est apparu. Et puis, je connais comme vous, là, je connais la fin, c'est tout ce que je sais, j'ai un point de fuite, et puis voilà, les choses se déroulent, et puis cette histoire de longe, oui c'est métaphorique, mais là moi j'arrive à assumer le fait que c'est aussi physiologique et physique.
Jean Echenoz, je vous ai vu rire, ça vous amuse l'idée d'attacher quelqu'un ?
Oui, ça serait une expérience, mais il faudra que j'essaie peut-être.
Sarah Jolien Fardel, Jean Echenoz, on se retrouve dans quelques instants. On évoquera la composition de vos romans, mais avant ça, on écoute Camille Mb, Plastique.
Est-ce que tu me passerais une cigarette ? J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire. Pour toi, c'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique. Pour éviter de tout casser encore. Une fois, j'ai enfilé une peau en plastique. Pour pouvoir la jeter au sol. Tu reconnais la silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui. Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques. Je rêve de vivre d'amour et de connaître moi. Je vis la vie d'une autre, c'est dommage. Je rêve de vivre d'amour et de connaître moi. Je vis la vie d'une autre fille, c'est dommage. J'ai enfilé une peau en plastique. Thank you.
sommes toujours en compagnie de Sarah Jolien-Fardel et de Jean Echenoz. Jean Echenoz, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez écrit un roman sur un roman en train de s'écrire. Vous utilisez un roman qu'on trouve assez peu dans les... un pronom qu'on trouve assez peu dans les romans contemporains, c'est le « nous ». Par exemple, vous écrivez « Comme Bristol se replonge en soupirant dans son tableau Excel, cela nous laisse un peu de temps pour présenter plus complètement cet homme. » Qui est ce « nous » ?
Bah, le « nous », oui, c'est un peu le « nous » de l'auteur qui prendrait... qui s'adresserait au lecteur comme une
comme un complice.
Oui, d'indication scénique. J'aime pas du tout l'idée des clins d'œil au lecteur. Je trouve que c'est presque indécent. Quoi. Si je fais des clins d'œil, c'est à moi-même. Mais l'idée de changer comme ça de prénom, que ce soit du nous, du tu, ou du on, ou du vous, c'est un peu comme si je changeais d'angle chaque fois.
Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un côté, cinématographique ici. Au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a presque un arrêt sur image. Il est dans son tableau Excel, et vous vous dites, ça nous laisse un peu de temps pour présenter plus complètement cet homme, donc on a un arrêt sur image. Votre livre parle du cinéma, et il est construit comme l'aurait fait un réalisateur de la Nouvelle Vague avec une sorte de voix off. Ça, c'était volontaire ?
Oui, c'est-à-dire que, comme je me suis, depuis les premiers livres, je me suis beaucoup servi de la technique un peu du cinéma en essayant de l'importer dans le roman, comme ça me poursuit depuis maintenant des dizaines d'années, de faire appel à des changements de plan, des caméras différentes, des groupes, je sais pas, des champs contre champs, du montage. Je me suis dit, à force d'utiliser ces éléments, cette grammaire, mettons en scène un réalisateur et puis...
Première fois.
Oui, je crois que c'est la première fois. Dans un livre plus ancien, c'était un type qui faisait de la télévision. Mais là, le cinéma, c'était la première fois.
Alors, le principe de l'émission, c'est que chaque semaine, des libraires nous accompagnent, ils vous ont lu. Thomas Auxerre, de la librairie L'Amandier à Puteaux, est en studio avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Lydia.
Vous aviez une question justement sur le cinéma.
Comme vous le disiez, Jean, effectivement, bonjour à tous. Il y a du cinéma peut-être pour la première fois autant dans votre œuvre. J'ai pas tout lu, mais là, quand même, c'est très présent. Et moi, je me demandais s'il y a eu un film qui a été le déclic pour l'écriture de ce roman, qui en a peut-être donné l'inspiration, ou si cela vient plutôt de votre vécu ou de votre imagination débridée.
Oh, l'imagination, je ne sais pas si elle est débridée, elle est très provoquée par les films. Moi, j'ai l'impression d'avoir appris au cinéma des choses qui, comme je disais un peu, qui sont utiles, pour parler un peu noblement, pour ma littérature. Quoi. Qui est un film d'origine, je ne pourrais pas dire... je sais qu'il y a eu, comme tout le monde, les films d'Alfred Hitchcock. Je crois que le premier film hollywoodien que j'ai vu étant enfant, c'était Prince Valiant, avec James Mason, dont je ne savais pas, je devais avoir 7-8 ans, je ne savais pas que ça deviendrait un de mes acteurs préférés. Cette espèce d'université parallèle qui était allée tous les jours au cinéma à une époque.
Vous aviez fait une fugue pour aller voir Pierrot le Fou.
Ah oui, ça c'était un peu plus tard, oui. Ben oui, parce que j'habitais dans une petite ville, et puis non loin, dans une ville plus grande. Était projeté Pierrot le Fou qui venait de sortir. Et oui, sans le dire à mes parents, j'avais pris un train pour aller voir ça. Et ça a été important, Pierrot le Fou. Les premiers films de Godard, ça a quand même été... C'était un peu des éclairs qui arrivaient, quoi.
Ben moi, je sens cette influence quand même de Godard. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est vrai que je la sens dans vos livres. Mais vous n'avez jamais pensé, vous, à être... À tenter la réalisation ?
Ah ben surtout pas, parce que quand on fait de la réalisation, ça suppose travailler avec 30 personnes, et j'en serais incapable, je peux travailler tout seul. Mais par rapport au cinéma dit de la Nouvelle Vague, j'ai beaucoup plus d'affection pour Claude Chabrol que pour Jean-Luc Godard.
Pourquoi ? Ça m'intéresse. Chabrol est plus social, peut-être.
Oui, et puis il y a une ironie, il y a une élégance qui n'est pas du tout la même chose. Alors, Chabrol a fait beaucoup de mauvais films, mais qui revendiquaient, pour le plaisir de tourner, et sans doute par nécessité matérielle. Mais il y a certains films de Chabrol qui sont immenses. Enfin, je sais pas, le Boucher, par exemple.
Ah, moi, j'adorais Le Boucher. Voilà. Oui, c'est un film qui fait un peu peur, quand même.
Certes.
Bon. Est-ce que voir des films aide à écrire des romans ?
Toujours, dans la mesure où ça donne des idées, oui. quand on aperçoit quelque chose dans la matière du film qui peut être adapté, importé, détourné. Oui, ça peut donner des idées de phrases ou de construction, bien sûr.
Quand vous regardez un film, vous pensez parfois même à la mécanique, au plan, et vous dites que vous pouvez transposer ça, ou c'est fait de manière complètement inconsciente ?
Oh, je crois que ça se fait un peu inconsciemment. J'ai essayé de voir plusieurs fois certaines choses pour essayer de comprendre comment se construisait un scénario. Et puis finalement, chaque fois, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, je m'intéressais plus à l'histoire elle-même qu'à l'élaboration de cette histoire.
C'est intéressant, parce que souvent, c'est l'inverse. Au cinéma, on emprunte au roman. D'ailleurs, c'est le cas dans votre livre. Ce cinéaste prend l'idée de son prochain film dans un roman. Et c'est vrai que vous faites quand même le chemin inverse.
Oui, mais il faut bien admettre qu'ils sont assez rares, les films inspirés de romans qui soient des réussites. J'en connais assez peu.
Alors j'ai lu ou entendu quelque part que vous trouviez parfois les noms de vos personnages dans les génériques de films. Est-ce que c'est vrai ?
Ça peut arriver parce que je suis un lecteur un peu systématique de génériques de films, mais quelquefois...
Il n'y a que vous qui lisez les génériques.
Oui, mais parce que quelquefois on me dit que j'invente des noms originaux, mais quelquefois je trouve dans les génériques des noms que je ne pourrais pas utiliser tellement ils sont extraordinaires. Alors là, on me dirait, tu exagères. Mais on peut trouver qu'il y a des noms qui sont merveilleux, quoi, qui sont déjà des fictions potentielles.
J'aimerais qu'on parle quand même de Jackie Pasternak. Pasternak, c'est un joli nom littéraire, on pense à Boris Pasternak. Mais le prénom Jackie vient complètement casser l'effet littéraire. Et je ne résiste pas au plaisir de lire la description que vous faites de Jackie Pasternak. Corps longiligne et thorax trapézoïdal, lèvres lascives et lunettes noires polarisantes sur nez grec. Jackie Pasternak serait assez facile à décrire, mais on n'en a pas tellement envie. Notons seulement qu'il n'est pas mal de sa personne, on s'attardera d'autant moins sur son physique qu'il s'en occupe lui-même, magnétisé par le premier miroir venu. Alors j'avais une petite question quand même là-dessus. La sonorité des noms donne une identité au personnage ? C'est le nom qui vient en premier ou est-ce que c'est le personnage qui vous inspire le nom ?
C'est un aller-retour entre ces deux-là, le personnage... je crois que le...
Là, dans le cas de Jackie Pasternak, c'est... Qu'est-ce qui est venu en premier ?
C'est un imbécile.
Mais vous lui avez donné un nom d'imbécile
ou... Pas du tout. Mais non, je voulais qu'il ait. Oui, qu'il ait un nom qui sonne un peu familièrement, mais en le francisant, puisque c'est pas la même orthographe.
Oui, c'est pas...
Et puis lui donner un prénom courant, parce que c'est pas un personnage très valeureux, quoi.
Vous, Sarah-Julien Fardel, dans La Longe, il n'y a que des prénoms. Votre héroïne s'appelle Rose, son compagnon Camille, son enfant, la petite fille décédée, Anna. Comment vous choisissez vos prénoms ?
D'une manière assez inconsciente. Rose est apparue tout de suite, quoi. C'était vraiment comme rencontrer quelqu'un que je connaissais et on se dévoile petit à petit. Je n'ose pas utiliser de nom de famille.
Pourquoi ?
Je n'ai écrit que deux romans publiés qui se passent dans ma région, qui est une toute petite région. Donc j'ai peur que tout à coup je mette Rose, je sais pas. En plus, il faut choisir des noms de la région.
Oui, c'est ça.
Donc il y en a quelques-uns, mais voilà, il y en a pas beaucoup de très drôles. Bon, mon père, pas de bol, s'appelle Jackie.
Jackie Jolier Fardel, ça va, ça fait pas le même effet déjà.
Oui. C'est vrai que c'est différent, mais pour le premier, les noms de famille étaient Monsieur ou Madame. Il n'y avait pas le prénom, il y a le médecin qui
est
à la fin. Mais voilà, donc moi je suis trop impressionnée pour oser donner un nom de famille.
J'aimerais qu'on accueille désormais notre libraire québécoise, Katia Courtois. Katia Courtois, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à la librairie Le Port de Tête à Montréal. Vous avez lu Bristol et vous aviez envie de vous adresser directement à Jean Echenoz. Je vous laisse la parole.
Écoutez, c'est vraiment un privilège de pouvoir vous parler. C'est vraiment une grande joie. Je dois vous dire que je suis entrée dans votre œuvre il y a quelques années par l'occupation des sols. C'est un collègue qui m'avait remis ce livre entre les mains en me disant « Garde-toi, vas-y, ça va te faire plaisir ». Et j'ai été ravie. Et depuis, évidemment, lire un nouveau Echenoz est toujours réjouissant. De Bristol, j'ai aimé ses personnages improbables, tous un peu dépassés. Le rocambolesque, très bien mené, par exemple dans cette scène du tournage en Afrique où l'éléphant saccage tout, mais avec brio. L'humour, donc, qui se multiplie de différentes façons. Et bien sûr, retrouver votre style qui est le vôtre, donc. J'ai eu l'impression qu'avec Bristol, vous aviez eu envie de pousser à fond, peut-être, l'humour, le burlesque, comme s'il fallait nous éloigner un peu de la grisaille du monde, mais sans laisser pour autant votre exigence de l'écriture de côté. Parce qu'avec vous, il y a vraiment un travail de l'écrit. On le voit, entre autres, par différentes choses, dont les descriptions hyper réalistes, les digressions encyclopédiques qui ajoutent à notre connaissance, notre vocabulaire. Ou comme ici, dans le jeu du narrateur, tout à l'heure, vous parliez justement du narrateur qui nous dit, qui parle au nous, qui interpelle le lecteur aussi, comme ici. Le ciel est en effet pâle, ou blême, ou livide, comme tu veux. Alors, oui, il y a de l'humour aussi. Et en terminant, Bristol, et là, c'est drôle parce que tout à l'heure, vous parliez de Chabrol, de son élégance. Eh bien, moi, en terminant Bristol, j'ai pensé à ces mots qui vont tout à fait à toute votre œuvre, je crois. Il y a dans votre écriture une nonchalance élégante, je trouve. Est-ce que c'est un effet recherché?
Oh, je ne sais pas si c'est un effet recherché, si ça donne ce sentiment, c'est... Enfin, je vous en remercie. Mais c'est en tout cas, c'est toujours... Enfin, c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est toujours tout un travail un peu long pour chaque... en général, pour chaque phrase, de trouver sa forme adéquate, sa distance, de trouver l'équivalence entre le sens d'une phrase et puis le son qu'elle produit, parce que le son, c'est quand même une chose importante. Le bruit que fait un texte, c'est presque aussi important que le sens, et puis ils s'alimentent mutuellement.
Vous lisez à voix haute ?
Oh non, jamais. Non, j'aurais peur d'être ridicule. Non, il me semble que la lecture silencieuse suffit à faire entendre, enfin, imaginer ce que ça produit.
Alors, j'ai une question. Vous travaillez tous les jours ? Vous écrivez tous les jours ?
Oui, tous les matins. Oui. Je peux pas faire autrement. Enfin, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre quand je me lève.
Donc là, vous avez l'idée du prochain ?
J'ai quelques fragments, parce qu'avant de commencer un livre, je collectionne un peu des idées de dialogue, des idées de description, des choses prises au hasard, comme ça, dans la rue, dans la vie, qui me semblent avoir une espèce de pertinence, d'utilité pour une fiction à venir, et puis en même temps, lentement, parallèlement, se construit un scénario. Mais ça prend toujours pas mal de temps.
Katia Courtois, merci beaucoup. Jean Echenoz,
merci.
Sarah-Julien Fardel, vous restez avec nous. Quand on revient, on s'intéresse à votre livre, Sarah-Julien Fardel, La Longe.
Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends. Je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures à M seul avec moi dans un diner ouvert 24 heures où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille et quand elle parle. Les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui, je pensais. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui, j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir, c'est un film, c'est un film noir, c'est un film noir, noir et dément. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelque entre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. De l'eau entre...
autres dévorent tout. Je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux. Ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années. Je m'en suis sorti, n'en serais-je jamais rentré. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, cette personne. C'est un film noir, oui je pense. J'espère au moins que quelqu'un regarde. Il connaît la fin, j'ai des questions, des milliards de questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui je suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde. Il connaît la fin, j'ai des questions, des milliards de questions. Une de plus à chaque seconde.
C'est un film noir.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. C'était Peter Peter, Noir Eden.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Etc. Lilia Hassen.
Et nous sommes toujours en compagnie de Sarah Julien-Fardel et de Jean Ichnoz. Sarah Julien-Fardel, votre livre L'Allonge était très attendu par nos libraires après le succès de votre premier roman, Sa préférée. L'Allonge semble être dans la continuité de ce livre, puisque votre personnage principal, Rose, a subi, comme dans votre premier roman, des violences de la part de son père. Un traumatisme qui l'empêche d'avancer, auquel vient s'ajouter la disparition de sa fille, Anna. Est-ce que vous assumez cette continuité entre vos deux premiers romans ?
Disons que j'ai des obsessions qui sont la mort, le suicide, les violences. Je trouve que la violence, voilà, est partout, hein, et ça, sans jouer, sans plainte et tout ça. Mais je trouve que voilà, c'est un peu notre chemin, quoi, d'être humain. Donc, des sujets très joyeux, comme vous pouvez le constater, mais C'est ce qui m'a retenue. Par exemple, mon éditrice m'a refusé mon deuxième roman, comme Monsieur Echnoz, parce que justement, j'avais peur, donc j'essayais de ne pas écrire, de ne pas refaire une réédite de sa préférée. Et finalement, quand celui-là est apparu, ben, ma foi, j'écris ce que je peux, quoi, aussi.
Je ne sais pas si vous vous êtes entendu, vous avez quand même dit c'est ce qui m'a retenue. Ce qui est pour, pour une autrice qui s'appelle L'Allonge, c'est quand même assez psychanalytique, non?
Oui. Il y a beaucoup d'inconscients. Moi, je découvre par les questions des lecteurs, des journalistes, des choses que moi, je n'ai pas vues en écrivant.
Notre libraire Fedra Hautmann, votre compatriote suisse, vous a lu. Fedra Hautmann, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Fedra, vous êtes libraire à la librairie Café Le Vent se lève à Saint-Ursanne. Et vous aviez des questions pour Sarah Julien-Fardel.
Oui, j'ai pas mal de questions, mais je voulais commencer par dire que, comme beaucoup, j'attendais avec impatience le nouveau livre de Sarah Julien-Fardel. Et je l'imaginais, bien sûr, sous pression, douter, hésiter, parce que après le succès éclatant et retentissant de sa préférée, qui est sortie il y a peu en poche, bah, comment revenir ? Et puis on le sait, le deuxième roman, c'est une étape charnière et pas forcément aisée pour tous, même si, on l'a entendu, c'est le troisième, mais le deuxième publié. Et puis j'ai eu vent du titre, La Longe, et tout de suite, connaissant un peu Sarah Julien-Fardel, j'ai senti que quelque chose de très particulier allait se passer, qu'on ne serait pas dans une histoire de cheval qu'on conduit à la main pour le faire travailler sur un cercle. J'avais aussi le souvenir d'une autre définition, celle d'une courroie, d'une laisse, permettant de mener ou d'attacher un animal. Un animal, mais pas un être humain. Sarah, je trouve que vous avez fait très fort avec cette histoire d'enfermement d'un couple face au drame. Mais je peux quand même pas m'empêcher d'être choquée par cette attache, la longe, la porte fermée à clé. Rose, la recluse, l'enchaînée, l'emprisonnée. J'imagine, j'espère, d'autres moyens de faire face à la tragédie. J'aimerais qu'il soit aussi possible de faire autrement, sans savoir quoi exactement. Alors, ma première question, c'est pourquoi l'enfermer et y ajouter cette longe ? Est-ce que ce n'était pas suffisant de la cloîtrer ?
Bonjour. Sarah Jolien-Fardel, alors.
Donc,
Ah, c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant, mais elle aurait pu s'échapper. Et puis, voilà, moi, j'aime beaucoup le sous-texte aussi dans les romans. Donc, il y en a. Il y a aussi des choses que moi, j'invente et que je ne mets pas parce que j'aime aussi les ellipses et qu'il y ait des couches comme ça. Donc, si vous voulez, moi, il y a vraiment un processus qui est un tout petit peu raconté vers la fin. Donc, je ne veux pas tout divulguer maintenant, mais enfin, voilà, Camille. Le mari de Rose, entouré aussi. En fait, tout ça, on le découvre plus tard. Donc, voilà, pour moi, il n'y avait pas d'autre moyen. De toute façon, Rose allait finir par mourir. Il y a un aparté où le pronom change, donc ça devient tu, parce qu'elle est même plus capable de voir ce qui se passe. Elle a vraiment. Elle s'enlise de plus en plus. Et puis, peut-être qu'il y a des sujets qu'on doit pas aborder, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pas pensé à tout ça. En fait, c'est justement parce que j'avais eu l'expérience, l'année, les 13 mois que j'ai passé à écrire l'autre livre, m'ont appris une chose, c'est que je ne pars pas d'un sujet, que je pars de personnages, et que si je commence à penser que tel lecteur va être choqué, parce qu'en plus, c'est une femme, et puis si, donc, j'écrirai pas. Donc, voilà, je me suis laisser aller, voilà.
Est-ce que, j'ai juste une petite parenthèse, Jean Echenoz, est-ce qu'il faut penser au lecteur quand on écrit ?
On pense à un lecteur imaginaire qui est un peu le double de soi-même, quoi.
Mais la question de choquer, pas choquer, est-ce qu'elle se pose ?
Sûrement, oui, sûrement. Moi, j'ai pas eu tellement cette... il faut se méfier aussi, quelquefois, d'un laisser-aller possible, mais... Mais comme lecteur, je dois dire, on pense surtout à soi comme lecteur. Et puis, au fond, on ne sait jamais si on aura un lecteur. Hein. Mm-hmm. Rien n'est sûr.
Sarah Jolien Fardel, votre longe, elle est aussi métaphorique ?
Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est clair qu'elle est aussi métaphorique. Oui, enfin, voilà, je ne peux pas...
Vous avez écrit le livre que vous aviez envie d'écrire.
J'ai écrit le livre que j'avais envie d'écrire.
Fedra Othman, au-delà de cette longe dont on a déjà beaucoup parlé, vous avez quand même été très touchée par ce livre.
Oui, bien sûr, j'ai été très touchée, je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'était juste ce choqué qui est peut-être... Mais j'ai été aussi très touchée par la relation avec cette présence inconnue, vous savez, celle qui est du bon côté de la porte, celle qui nous laisse à croire que Rose, un jour elle ira mieux, un jour elle va pas forcément guérir, parce que c'est vrai que la perte d'un enfant, on n'en revient jamais indemne, ça c'est certain. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la littérature, les mots, nous donnent l'espoir que Rose pourra renouer avec la vie. D'ailleurs, Sarah, vous faites référence à une phrase tirée d'un livre de Marguerite Duras que Rose entend ou croit entendre de l'autre côté de cette porte. Et puis, je suis curieuse de savoir si, justement, vous avez été influencée par Marguerite Duras qui dit, entre autres, « Il n'y a rien qui enferme plus que l'amour ».
C'est drôle. Alors moi, j'ai été influencée, je pense que je suis influencée par beaucoup de mes lectures. J'ai été une grande lectrice depuis enfant, enfin, et boulimique jusqu'à 25 ans. Maintenant, ça se calme, c'est un livre par semaine, j'ai un peu moins de temps, mais
j'ai pas mal
envie. En fait, j'avais relu quasiment tout Marguerite Duras ces deux ou trois dernières années. C'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que je relis. Je sais pas si c'est l'âge ou voilà, ça fait 4-5 ans que je fais ça. Avant, je le faisais jamais. Donc peut-être qu'elle m'influence, j'en sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa langue. Si vous voulez, elle a passé 3 ans où elle a eu du temps, puisqu'à un moment donné, elle arrête son travail alors qu'elle a un travail qu'elle aime. Elle est ostéopathe et elle a un cabinet avec une amie. Mais en fait, le fait d'être obligé d'être dans cette pièce, ça lui permet de revisiter toute sa vie. C'était ça que je voulais faire. Il y a aussi toutes ces... où c'est en Italie, qu'elle vraiment, elle revoit les, ben son, aussi sa nature, qui était une nature quand même assez lumineuse et joyeuse, et malgré ce qu'elle avait vécu, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de son frère, alors qu'ils ont passé la même enfance, entre guillemets. Et voilà, c'était ce maintien lui permettait de aussi de faire remonter les souvenirs. Voilà, donc c'était un peu tout ça au moment où il choisit.
Et ça, c'est une idée assez durassienne, de se cloîtrer un peu pour réfléchir, oui, et pour laisser remonter les souvenirs.
Oui, peut-être bien, ouais, effectivement, parce que là, j'avais vraiment lu Duras, et après, c'est difficile. Moi, j'arrive pas à... J'aimerais bien, je trouve que ça fait très chouette dans les dîners en ville de réciter des phrases d'auteurs, mais je les retiens pas, j'absorbe tout.
Bah, il faut les retenir parce qu'on les a aimés, relus, hein. Mais sinon, c'est sûr que les apprendre par cœur, parce qu'on a un petit carnet, c'est... Oui. Ça fait un peu pitié. Votre roman, Sarah Julien Fardel, c'est en effet aussi une ode à la littérature, une littérature qui libère. Vous écrivez à un moment « Je n'avais jamais réalisé que malgré mes quelques tentatives de renouer avec la vie, les mots des autres soigneraient ma détresse ».
Moi, j'ai eu un choc quand j'ai découvert Charlotte Delbault, ce texte-là de Charlotte Delbault, il y a pas très longtemps, il y a quelques années, ça fait pas très longtemps. Et puis, peut-être qu'elle est tellement enfermée, Rose, que... Ben, elle se rend compte que d'autres qu'elle souffrent en voyant pas, voilà, puisqu'elle pensait qu'elle avait un monopole de la douleur. Après, je pense qu'il n'y a pas que les mots aussi, mais enfin pour moi la beauté, enfin voilà, là je suis allée au Grand Palais d'où mon petit retard, désolée, avant de venir, et puis d'être là sous ces fils tout entrelacés, enfin voilà, c'est la beauté, et je trouve que la beauté ça soigne quoi, enfin ça fait du bien.
Vous parlez de beauté dans votre livre au sujet d'un autre livre, qui est le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, publié en 1982. C'est un livre magnifique et c'est le classique de la semaine.
Lilia Hassen, etc.
Sarah Julien Fardel, il s'agit donc d'une lettre rédigée par l'auteur portugais Fernando Pessoa à son ami Mario de Sá Carneiro, lettre qui figure au tout début du livre de l'intranquillité. Je vous laisse nous en lire un extrait.
Je vous écris aujourd'hui, poussée par un besoin sentimental, un désir aigu et douloureux de vous parler. Comme on peut le déduire facilement, je n'ai rien à vous dire, seulement ceci. Que je me trouve aujourd'hui au fond d'une dépression sans fond. L'absurdité de l'expression parlera pour moi. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé d'un mur d'angoisse. Dans le jardin que j'aperçois, par les fenêtres silencieuses de mon incarcération, on a lancé toutes les balançoires par-dessus les branches, d'où elles pendent maintenant. Elles sont enroulées tout là-haut. Ainsi, l'idée d'une fuite imaginaire ne peut même pas céder des balançoires pour me faire passer le temps. Tel est, plus ou moins, mais sans style, mon état d'âme en ce moment.
Alors, si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que ça m'a fait penser évidemment à votre livre, cette idée de l'enfermement, et puis aussi parce que cette balançoire dont il parle peut évoquer aussi votre longe, ce lien entre l'enfermement et la liberté. Il vous inspire quoi, à vous, cet extrait ?
Alors, beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, Pessoa, c'est vraiment un livre que, enfin, en tout cas que moi, j'ai jamais terminé. C'est-à-dire que chaque lecture, selon les moments, selon l'âge, enfin voilà, ça change un petit peu. Ben moi, je au fond d'une dépression sans fond. Enfin voilà, je veux dire, si on a connu quelques moments sombres, on comprend tout à fait. Et puis, il y a quand même, tout n'est pas perdu. Puisque voilà, il peut quand même. Et puis c'est assez à ça que je crois, quoi. Tout n'est pas.
Oui, c'est vrai. Et votre livre est plein d'espoir, comme je le disais. Jean Ichenoz, Pessoa avait sous-titré ce livre Mon autobiographie sans événement. Et je me disais que c'était un sous-titre qui correspondait assez bien à vos personnages aussi.
Ah oui, ça me conviendrait tout à fait. Oui, oui, je ne pourrais pas développer ça. Mais... Oui, oui.
C'est... Sarah Julien Fardel, tout à l'heure, Fedra Hautman, notre libraire, parlait de l'angoisse que vous avez dû ressentir pendant l'écriture de ce livre. Est-ce que vous avez ressenti la peur du deuxième roman après le succès de votre premier ?
Peur, je ne sais pas si c'était de la peur. De toute façon, j'ai toujours peur, mais d'une part, j'étais moins innocente parce que tout ce que j'avais écrit avant, c'était dans la joie. Enfin, c'était particulier. Tandis que là, effectivement, j'avais quand même l'impression. Évidemment, j'ai retenu les quelques critiques négatives, c'est-à-dire ah oui, alors il faudrait pas. Enfin voilà. Et moi, quand je me sens pas libre, c'est pas possible. Et celui-là, j'ai pas eu d'angoisse. C'était vraiment des mois extraordinaires. Alors il y avait eu 13 mois avant, et moi je travaille aussi le matin tôt tous les jours. Donc voilà, tout a coulé. Facilement. Et puis, par contre, c'est une question de journaliste qui m'a fait penser à ça dernièrement. C'est que moi, j'écris vraiment dans un silence, vraiment le silence, et j'aime même pas quand il y a quelqu'un dans la maison, en tout cas pas dans la pièce. Et par contre, pour la deuxième partie de ce texte, j'ai beaucoup dû couper, parce que j'écrivais toute la journée avec de la musique très forte, parce qu'effectivement, c'était assez... Voilà, c'était je vois les images. Moi, je regarde et j'écris. Donc, je voyais défiler. Puis, quand même, je sentais cette angoisse, une autre forme d'angoisse. Mais j'ai préféré.
C'est quoi, c'est l'angoisse de couper? Ou quand vous deviez couper dans votre texte à ce moment-là?
Non, c'était pas les moments. Non, les moments où je coupais. Non, moi, j'ai vraiment pas de. Ça va. Ça, c'est pas compliqué. Non, c'était vraiment les moments où je devais décrire son angoisse à elle.
Ah oui, son angoisse à elle.
D'être attachée, parce qu'effectivement, on peut quand même pas nier que c'est un petit peu angoissant, même quand on est au fond du désespoir.
Jean-Yves Schnouz, est-ce que l'expérience aide dans le processus d'écriture, ou est-ce qu'un livre c'est toujours une première fois?
Ah, c'est tout. Je crois que c'est toujours. Oui, c'est toujours une première fois. D'autant plus qu'il ne faut pas répéter les choses qu'on a essayé d'explorer ou d'utiliser. Il faut pas que ça donne l'impression de faire des.
De répliquer une recette qui marche.
Oui, des effets, etc. Donc. On doit se battre à la fois contre l'histoire, enfin avec l'histoire, et puis un peu contre les choses, contre les livres précédents, parce qu'il faut avancer. Quoi. Bon, c'est de plus en plus compliqué d'une certaine manière.
Mais plus le temps passe, plus vous vous rendez compte aussi de manière consciente de vos obsessions, non ?
J'en suis bien sûr, on peut s'en rendre compte longtemps après. J'avais fait une série de trois livres courts qui étaient des vies de personnages réels que j'avais un peu. C'était des vies imaginaires. Et je les ai écrites parce que ça m'intéressait, je voulais travailler là-dessus. Mais je me suis rendu compte très longtemps après, peut-être un an ou deux, que ces trois livres étaient construits sur le même schéma, c'est-à-dire grandeur et décadence. La gloire et la fin et l'échec.
C'est pour ça que vous n'écrivez plus de biographie ?
Oh, mais j'aimerais bien en reprendre, j'aimerais bien retravailler sur cette forme. Mais c'est compliqué parce que autant le premier livre, ce qui était sur Maurice Ravel, enfin autour de Maurice Ravel, a été très très difficile à écrire. Autant le suivant, c'était déjà un peu moins compliqué. Le troisième, c'était plus facile. Et quand ça devient facile...
Ça vous ennuie ?
Bah oui, il vaut mieux passer à autre chose.
Sarah Joliens-Fardel, Jean-Yves Schnouz. Dans un instant, on retrouve nos libraires pour leurs conseils de lecture. Mais d'abord, on écoute Biche, Le Code. We'll be right back. invité, etc. Et nous sommes toujours en compagnie de Sarah Julien Fardel et de Jean Echenoz. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Etc. Lilia Hassen.
Et tout de suite, on accueille Annick Vermeaux de la librairie Zalactoré en Suisse, une librairie spécialisée en bande dessinée. Et ça tombe très bien, car dans quelques jours s'ouvre le festival d'Angoulême. Bonjour Annick Vermeaux.
Mais à Radio Bonjour du Valais.
Ah, ça c'est pour vous, Sarah Julien Fardel. Alors Annick, vous avez choisi une bande dessinée qui est en lice pour le prix Écofauve, puisqu'il s'agit d'un conte écologiste.
J'avoue avoir été très chauvine dans le choix de mon coup de cœur en sélectionnant cette jolie BD Terra Animalia aux éditions de La Joie de Lire. C'est un ouvrage réalisé par deux auteurs suisses, Tom Tirabosco et Patrick Mallet. Ils ont choisi, une fois n'est pas coutume, de mettre les animaux au centre du propos pour nous proposer une fable philosophique haute en couleurs. Les humains, après avoir dévasté notre planète bleue, se réfugient sur Mars. Plusieurs milliers d'années plus tard, les animaux et la nature se sont réorganisés sur Terre sans les hommes. Et une conscience mystérieuse les unit. Des lois très strictes les empêchent de retomber dans le chaos des légendes anciennes. Mais voilà, il y a un vaisseau martien qui se crache. Et juste un homme et une femme en sortent, indemnes, signant donc le retour des hommes sur Terre, sous les yeux d'une jeune lycaone.
Alors, qu'est-ce qu'une lycaone, Annick ?
Une lycaone, c'est une espèce de chien sauvage d'Afrique, qui est aujourd'hui d'ailleurs en voie d'extinction. C'est le personnage principal de l'histoire qui va protéger ces humains, alors que l'humanité fut une menace pendant des millénaires pour les animaux. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai aimé. Avec un naturel déconcertant, Patrick Mallet inverse le processus d'évolution. Il fait régresser les personnages humains pour leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes et à la planète. Et d'ailleurs, le trait épais de l'illustrateur Tom Tirabosco est adouci dans cette histoire. Et j'ai trouvé que les couleurs joyeuses lui allaient tellement bien dans cette histoire luxuriante. J'ai adoré comme il a rendu ces animaux expressifs, attachants. J'ai vraiment, vraiment aimé. Ce que j'ai préféré dans cette histoire, c'est le message en filigrane qui prône une diplomatie interespèce. En effet, dans le scénario... Eh bien, il refuse que ce soit uniquement des rapports de force qui soient la règle dans les échanges entre les animaux, entre les humains. C'est un livre à lire et à relire, car il est très dense. D'ailleurs, je vais m'y replonger maintenant, parce qu'il y a certainement des éléments qui ont encore dû m'échapper.
Merci Annick. J'avais juste une petite question. Elle s'adresse à qui cette bande dessinée ?
Alors, pour moi, c'est une bande dessinée plutôt pour adultes, enfin ado-adultes. Pour les enfants, je pense qu'il y a des thèmes qui sont encore un peu trop difficiles pour eux.
Par exemple, lycaone, mais bon, vous nous avez expliqué ce que c'est. Et puis, je crois qu'elle est assez bien dessinée. Merci Annick, elle a l'air vraiment formidable, cette bande dessinée. Le titre, c'est Terra Animalia, de Patrick Mallet et Tom Tirabosco, aux éditions La Joie de Lire. Et je redonne la parole à notre cher Thomas Auxerre de la librairie Lamandier à Puteaux, qui a fait aussi un choix BD, une bande dessinée primée à Angoulême l'an dernier. Et Thomas, je vous ai rarement vu si enthousiaste.
Eh bien oui, Lilia, c'est un énorme coup de cœur pour Chine Zéro de Babelais et Singelin. C'est chez Label 619, les éditions Rue de Sèvres, enfin l'école de loisirs en BD. Dans cette BD au format manga, on est au Japon, dans un Tokyo imaginaire où nos héros de jeunes colocataires font partie des Sentai. C'est un groupe de héros aux combinaisons moulantes et colorées, un petit peu Bioman, un petit peu Power Rangers si vous voulez. Alors contrairement à leurs glorieux aînés des années 80-90 qui ont sauvé l'archipel d'attaques de monstres géants, hein, genre Godzilla, enfin vous voyez, bah eux se font engager pour des petits boulots pas très prestigieux, vigiles de magasins, ils sont déneigeurs de trottoirs par exemple. Bon, c'est un peu des justiciers à la sauce Uber si vous voulez. Alors j'en dis pas plus, à part que j'ai vraiment adoré cette œuvre originale et vivante, ponctuée de nostalgie, de clin d'œil au passé, à la culture japonaise. Bien sûr, peut-être que les monstres vont ressurgir, et là il y a toute l'histoire qui démarre. Il y a des personnages qui sont campés, très attachants. Alors moi, pour tout vous dire, hein, Lilia, ces deux talentueux loustiques, hein, Babelais et Singelin, je les attendais, hein, ce sont les dessinateurs de Shangri-La, Carbone et Silicium, Frontières, qui ont eu de nombreux prix à Angoulême. Et vraiment, quel plaisir de lecture, je suis tellement content de les retrouver. Vraiment, ce premier tome sur une série de trois, c'est une réussite totale. Vraiment, bravo messieurs.
Oui, vous êtes très 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 enthousiaste.
Ah,
merci Thomas. Avis aux amateurs de manga, donc avec cette BD qui s'appelle Chine Zéro, signée Babelais et Singelin, c'est ça ?
Singelin.
Dernière question pour tous les deux, Sarah Julien Fardel et Jean Echenoz. Vous aimez la bande dessinée, Jean Echenoz ?
J'étais, oui, très, très lecteur de bande dessinée dans ma jeunesse. Maintenant, ça m'arrive moins souvent. Mais j'ai travaillé avec un dessinateur que j'aime beaucoup, qui est Guy Delisle. On avait fait un petit livre ensemble et il y a un projet qui se dessine d'un autre travail en commun.
Ah bon, on va suivre ça. Sarah-Julien Fardel.
Alors moi, c'était plutôt mon frère, et j'en parle d'ailleurs dans la longe de quelques BD. Et puis sinon, j'aime bien le roman graphique, évidemment, Maos, enfin voilà, Riyad Satouf, je les ai tous lus. Et là, j'ai offert à mon mari le numéro 2 de Monster, et j'aimerais lire les deux, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est les monstres.
Thomas Auxerre approuve.
Ah oui, j'adore. Ah oui. Ouais. Très bon choix, bravo.
Okay. Et puisqu'on est dans les références littéraires, Thomas Auxerre, je crois que vous aviez une question à poser à Jean Echenoz.
Mais oui, tout à fait. Jean, je me demandais, vous qui avez quand même construit une très belle œuvre, du coup en 40 ans, est-ce que vous vous retrouvez dans des écrivains contemporains et si oui, lesquels?
Contemporains ou pas?
Oui, quelquefois on me dit que certains auteurs... On repris des choses. Non, je le reconnais jamais. Si la lecture de mes livres a pu provoquer des choses, j'en suis très très heureux. Mais non, je vois pas vraiment de. Il y a beaucoup de jeunes écrivains qui m'intéressent, mais
par exemple, est-ce que vous avez des exemples?
Le dernier livre de quelqu'un, j'avais beaucoup aimé, mais le livre de Clémentine Mélois qui s'appelait
Ah oui, sur son
alors,
père. Sur son
alors
père,
c'est
oui,
bien.
Ah oui.
Qui n'est pas un roman, mais qui
c'est quoi le titre déjà, Thomas?
Alors c'est bien.
Ah oui, alors c'est bien. Bah, oui,
qui
bien sûr.
Un très beau titre.
Oui, sur son père sculpteur.
Voilà.
Un livre, magnifique. Ouais. Justement, on parle de la mort de manière très très joyeuse. On vous le conseille.
Oui.
Ok.
Sarah-Julien Fardel. Bah écoutez, merci Sarah-Julien Fardel et merci Jean Echenoz. On recommande vos livres. Sa préférée, votre premier roman, Sarah-Julien Fardel, et le deuxième, La Longe, paru chez Sabine Vespizer. Des romans sur la violence, mais plein d'espoir, portés par une langue ciselée. Vraiment. Je ne peux que recommander les romans de Jean Echenoz également. Je parlais de Cherokee en début d'émission. J'ai adoré Ravel aussi. On en a un petit peu parlé, la biographie du compositeur. Donc allez-y. Élisée Bristol, le tout dernier, dans lequel on retrouve un condensé de fantaisie et de mélancolie sauce Jean Echenoz. Merci également à nos libraires du jour, Fedra Hautman, Katia Courtois, Annick Vermeaux et Thomas Auxerre. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lignan Allôme à la réalisation, Corentin Rouchy à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Ethel Alzial. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.